Bonjour pour cette première journée donc aux Utopiales. Je vous remercie d'être ici pour ceux qui ont été d'accord pour sauter leur repas. Je suis très heureux donc d'accueillir messieurs Jerry Friesen et Philippe Scofoni pour un petit bijou qui s'appelle Exo, qui est prévu donc en 3 tomes. Donc bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Nous allons donc parler de scénario, un tout petit peu de science-fiction, un tout petit peu d'exoplanète peut-être, un tout petit peu de vos parcours, et un petit peu de technique aussi, parce que ça reste de la bande dessinée, donc on aime bien savoir un petit peu comment tout ça a été fabriqué. Et j'ai envie déjà de, par rapport à vos parcours en fait, parce que vous avez quand même quelques albums à votre effectif, vos effectifs mutuels je dirais, il y a quelques jolis noms qui se promènent dans vos biographies. Et avec ce parcours, que ce soit entre les Métabarons, entre Milo et autres, comment s'est fait la rencontre et comment est né le projet donc, de Exo, un petit bijou donc, en 3 tomes sur une exploration. Alors, j'ai envie de dire matinée de science-fiction parce que on est presque dans le réel, en fait. Quand on lit l'histoire, on est vraiment dans l'exploration spatiale d'une manière presque hyper réaliste, que ce soit dans le traité, enfin dans le tracé et dans le traité, les sujets abordés, ça délire pas dans un space opéra complètement, je trouve, en dehors de la réalité. On a vraiment l'impression que c'est un récit ancré dans la réalité. Et donc voilà, comment est arrivé Exo dans vos parcours en fait?
Tu te souviens comment on a commencé à travailler ensemble?
Alors, je ne sais pas si on parle de ça ou du rapport au réel, mais au fait que ce soit très contemporain comme science-fiction. Après, comment... Non, c'est moi qui t'ai contacté par Internet. Hein. J'aimais bien ton travail sur les Luchadores 5, la Lucha Libre, tout ça. Ça m'avait fait bien rire, voilà. Non, c'est mon idée à moi.
Ok.
Mais oui, par rapport au fait que le récit soit de la science-fiction, mais dans une anticipation très légère, avec tout un décor qui se passe aux États-Unis et qui est très contemporain. Tous les éléments qui ne sont pas spécifiquement de la science-fiction, j'ai voulu les ancrer dans le réel américain en profitant du fait que Jerry habite aux États-Unis. Donc je savais que là, j'avais une source de documentation et de réel... qui n'était pas une vue touristique avec Jerry, donc je voulais vraiment en profiter de l'ancrer dans le réel américain.
Et aussi, on s'est retrouvé autour de thèmes différents. Je me souviens qu'il y a un truc qui nous passionnait tous les deux, c'était la Lune, et on s'est dit on va faire quelque chose qui se passe au moins en partie sur la Lune. Et je me souviens aussi que, en fait, on a commencé à travailler ensemble sans savoir ce qu'on allait faire. Donc moi, j'ai commencé à donner des idées, puisque c'est moi qui écris. Et je me souviens que la première idée, après juste l'idée de la Lune, ça venait d'un show que j'avais vu qui expliquait qu'est-ce qui se passerait sur la Terre si tous les hommes disparaissaient d'un coup. Sans se poser la question pourquoi ils ont disparu, donc ce qui se passe pour la planète et pour les constructions humaines. Et c'était assez drôle, en fait, parce qu'au bout de 24 heures, il n'y a plus rien. Tout est en feu un peu partout. Et puis, en gros, tout disparaît au bout de, je crois, plus ou moins 100 millions d'années. Donc c'est long pour un homme, mais c'est minuscule à l'échelle cosmique. Donc on s'est dit, on peut imaginer que sur Terre, il y ait eu... une autre civilisation avant nous qui a habité la Terre d'une autre façon. Et ça, c'était le point de départ de notre travail ensemble.
Parce que quand je parlais tout à l'heure de l'ancrage dans le réel, en fait, c'est vrai que la présence de la Lune donne presque un brin de nostalgie, en fait. On a envie, on se dit, ouais, on a envie d'y retourner, en fait. On a envie de revoir ça et puis d'y passer un peu plus de temps, de voir un petit peu, en se disant, on espère que ça n'a pas été juste un coup de pub dans les années 60 et qu'on n'y retournera pas, quoi, en fait. Et là, on se dit, tiens, on prend plaisir à découvrir un petit peu ce qui se passe, effectivement, sur cette petite voisine, quoi, je dirais.
En fait, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on voulait l'utiliser. C'est pour ça que les commandos qui sont sur la Lune passe par le, les restes de Apollo
17, je crois, oui. Oui, oui, pour évoquer ce
passé-là.
Oui,
passé oui ils remettent en route le,
le rover lunaire, ils le réutilisent pour leur mission. Oui, oui, c'est vraiment la Lune le point de départ, avec sa dimension, sa proximité, et en même temps le fait qu'on n'y soit pas actuellement, donc ça permet l'imaginaire quand même. Un imaginaire très proche de nous, voilà, c'était un peu l'idée de départ.
Et alors souvent, donc, quand on a un scénariste, un dessinateur, on sait que c'est un album à quatre mains, mais là j'ai l'impression que c'est encore plus que ça, puisque c'est vraiment votre travail, il est très mêlé quand même en termes de même d'apport des idées, de partage de l'histoire, de...
Oui, je crois que
sur la scénarisation, par exemple.
Oui, ben là, on va en refaire l'expérience avec sans doute peut-être un autre projet en commun. Donc, effectivement, ça commence par juste des discussions sur des thématiques. Et Jerry, à un moment, m'apporte une trame, quelque chose avec des personnages, une histoire. Et puis, c'est sur ce premier canevas qu'on peut discuter. Moi, je lui dis... ce qui me plaît et puis ce que je sens pas. Et c'est comme ça, avec des allers-retours, qu'il peaufine l'histoire. Quoi.
Mais quand le scénariste est graphiste, il n'a pas envie d'aller un peu au-delà aussi, là, de s'en mêler un petit peu, de se dire qu'est-ce que t'as foutu là, je sais pas.
Je me mêle de tout en général. Hein. Mais en fait, Philippe, c'est la seule personne avec qui je travaille comme ça. Et j'aime bien parce qu'il est tellement méticuleux et exigeant que ça me pousse moi-même à aller dans des endroits que je n'irais pas forcément. Donc je le laisse être chiant.
Il y a, sur le graphisme proprement dit, tu interviens très rarement. Je crois que la seule remarque qui m'est faite sur le dernier album, sur une page, c'est qu'ils avaient l'air trop rouges. Hein, oui, en gros... J'ai osé le rouge, je me dis il faut que je mette du rouge sur cette page. Et du coup, ça ne s'est pas passé.
Mais aussi, comme Philippe disait, moi je vis aux États-Unis, donc je lui ai fourni des tas et des tas de documents, des photos que j'ai prises moi-même, des explications sur le fonctionnement des choses, etc. Il y a une partie qui se passe à la NASA. J'ai été visiter ces endroits de la NASA pour que Philippe ait... De quoi se mettre sous la dent, quoi.
Oui, ça contribue. Enfin, je vais pas tourner en boucle sur l'histoire de l'ancrage dans le réel, mais vraiment, on sent cette présence de la, je dirais, ouais, de la recherche scientifique méticuleuse, du réalisme dans tout. Enfin, que ce soit le design et même l'histoire, en fait. Je dirais, il y a pas d'exubérance, quoi.
En fait, on a essayé de rendre le truc le plus pas crédible, mais plausible. Que tout fonctionne, que tout pourrait fonctionner.
Parce qu'il s'agit quand même d'une histoire de vie extraterrestre, et moi c'est ce que j'aime bien dans ces histoires-là, c'est l'éruption de ce qui nous est étranger dans le réel. Si on place le récit dans un monde déjà imaginaire, ça ne marche plus, le contraste ne fonctionne plus avec quelque chose qui viendrait d'ailleurs. Donc il faut vraiment ancrer le récit dans le réel. Et aux États-Unis, parce que c'est Jerry. Parce que je pense qu'avec un scénariste français, j'aurais demandé pourquoi le placer là-bas, aux États-Unis, ce récit, encore un récit de plus qui se passe avec la NASA et l'armée américaine. Avec Jerry, ça se justifie.
C'était légitime. Ouais. Parce que du coup, ça part quand même dans plusieurs directions en même temps. Hein, ça, c'est, moi, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à ouvrir cette bande dessinée parce que. Vous allez être capté dès les premières pages. Et effectivement, on peut se dire c'est un récit, je dirais presque un space opéra, disons, encore xénobiologue, d'exploration et puis donc de réaction à une invasion, entre guillemets. Mais effectivement, c'est un thriller, en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment captivant du point de vue cinématographique. Et ça, je trouve qu'on sent une culture cinématographique importante derrière en termes de découpage, en termes de choix du cadrage, choix de l'alternance des situations. Il y a quasiment les trois lieux, disons, qui avancent en même temps, enfin trois actions qui avancent en même temps. Et ça, donc, voilà comment ça se passe, comment ça s'est mis en place, comment, parce qu'on peut avoir... je dirais une grande histoire, entre guillemets, sur les trois tomes, une méta-histoire, mais après, il faut la découper, quoi.
C'était vachement compliqué, en fait, comme travail. Parce que, justement, il a fallu... découper tous ces endroits différents, garder le rythme de l'histoire, c'est vraiment très très compliqué.
Et alors pourquoi 3 tomes et pas finalement un bel intégral aussi? Alors ça, là ça fait 3 beaux albums.
Ça viendra, oui, après c'est des choix éditoriaux de faire des intégrales ou des albums, c'est l'histoire de l'édition actuelle française, donc ça c'est des choix en même temps de... C'est une histoire qui se continue sur 3 tomes, donc effectivement, en intégrale, ça fonctionnera très bien. Ou d'acheter les 3 albums quand tout est fini. Attendre un an entre chaque... Bon, j'ai été plus rapide, là, quand même. Hein. On a sorti les 2 premiers tomes la même année, et le 3e tome sort en janvier, donc voilà. C'est... En janvier, tout sera publié. Mais pourquoi 3 tomes? Oui, c'est un découpage éditorial...
Mais l'histoire
ne sont pas des épisodes.
L'histoire en 3 tomes a été aussi une gageure de la condenser à ce point-là, entre guillemets, ou est-ce que c'est parce que ça peut être appelé aussi à se diluer, mais en tous les cas à se continuer peut-être.
Se continuer, je sais pas, mais je pense que donc il y a à peu près 150 pages, et ça c'était juste le bon nombre de pages pour ce genre d'histoire. Après, on peut le faire en 200, en 300.
Oui, faire du Léo après.
Je lui avais demandé un diptyque, peut-être plutôt me rembarquer sur 3 tomes. Je me disais, bon, peut-être un diptyque, ça serait bien. Et puis, il a senti que c'était 3 qu'il fallait, donc pour développer tous les éléments qu'il voulait développer. Donc,
on avait 3 personnages principaux. J'aimais bien l'idée de 3 tomes basés sur ces personnages.
Et alors Philippe, tu parlais donc de ton temps de travail sur les albums. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta technique? Parce que vous avez, en termes de graphisme, vous avez tous les deux une formation entre guillemets classique, j'imagine.
Oui.
Et maintenant, donc ton travail sur cet album-là, et puis j'imagine que ça a évolué au cours de ta carrière de dessinateur, peut-être passer du traditionnel au numérique.
Oui.
Et du coup, aujourd'hui,
je suis en tout numérique.
Aujourd'hui, on fait comment une bande dessinée telle que Exo?
Sur Exo, tout a été fait en numérique. Sur ma série précédente, Milo, j'avais commencé en traditionnel, couleur numérique, et après tout numérique progressivement. C'est là que je suis le plus à l'aise. J'ai tendance à essayer d'essayer de maîtriser ou contrôler tous les éléments graphiques. Et c'est plus simple de travailler en numérique quand on recherche à parfaire certaines choses, donc ça m'évite de vignetter des pages, mes planches, de faire des vignettes et beaucoup de retouches. Voilà, le numérique est très souple pour ça. Je suis pas un dessinateur du geste sûr et du premier geste. J'ai besoin de travailler. Je suis un peu laborieux, voilà. Ça permet les couches de travail de façon plus fluide, le numérique.
Avec donc, apport de documentation, enfin, j'imagine que du coup, oui. S'il y a des lieux, tu appelles Jerry pour lui demander faire un reportage photo quelque part.
Oui, il y a ça. Par exemple, pour la maison d'un des personnages, il a pris une photo dans son quartier d'une maison. Je l'ai un peu repéré aussi dans Google Street, voir un peu les... différents axes de point de vue pour avoir des détails, n'habitant pas là-bas, des détails qui font vrai. Et puis on y est passé cet été, là, devant la maison, c'était rigolo, de voir la maison de mon personnage. On est passé en voiture juste à côté, c'était très amusant. J'ai l'impression de rentrer dans l'album, c'était une expérience étonnante.
En fait, souvent, Philippe me demandait des trucs vraiment spécifiques. Quel modèle de voiture, à quoi elle ressemble, quelle couleur.
Oui, ça, il avait toujours le modèle précis qu'il me suffisait de regarder à quoi ça ressemblait pour le dessiner, à pas me poser la question de savoir dans quoi ces personnages peuvent rouler, parce que c'est vrai que c'est même la voiture est un élément sociologique fort dans un personnage. Quand on n'y habite pas, on peut pas s'imaginer les véhicules précisément.
Oui, du coup, pour toi, c'était un travail exotique, en fait, finalement.
Oui, vraiment.
Exo,
voilà.
Oui, parce qu'autrement, on a... Bon, il y a toutes les séries américaines sont tellement aussi ancrées dans le réel qu'on c'est une source de documentation, mais quand on n'y habite pas, on prend ça de façon un peu aléatoire. Là, au moins, j'étais tranquille de ce côté-là. Hein. J'avais un indigène. Après, quand il s'agit du coup de représenter l'étrange ou l'extraterrestre, là, il a bien fallu que je me retourne vers mon imaginaire. Là, ça a été finalement la partie là, qui m'inquiétait le plus, parce que j'avais toute une partie du travail qui était basée sur le réel, et je savais qu'à un moment un personnage venant d'ailleurs intervient et qu'on va le voir, on va voir des choses de cet univers-là. Donc là, je savais qu'il fallait que je design des choses partant de presque rien. Et bon, je l'ai fait sans trop me poser de questions. En fait, bon, ça c'est le tome 3 plus. Hein.
Et comment on fait lorsque l'on sait tout ce qu'il y a dans le background, je dirais, de la science-fiction graphique, que ce soit en bande dessinée, en film, en cinéma, enfin toutes sortes de représentations visuelles donc de la science-fiction, que ce soit les vaisseaux, les extraterrestres en l'occurrence aussi. Comment on fait pour se dire, tiens, on va s'y attaquer et on va essayer d'apporter quelque chose, pas forcément de nouveau, mais en tous les cas de cohérent et qui soit intéressant et qui puisse attirer un public qui aura déjà tout lu, quoi.
C'était mon interrogation graphique. Après, tu en as peut-être d'autres, toi, scénaristiques. Mais moi, graphiquement, effectivement, j'aime les histoires de vie extraterrestre quand on ne les voit pas. En général, dès qu'on perçoit la créature, ça change l'univers pour moi. On tombe dans un film de monstres. J'aime Rencontre du troisième type pour ça, parce qu'on les aperçoit. Donc c'était vraiment ma référence visuelle, je voulais qu'on les voit le moins possible, qu'on reste dans l'anticipation de ce qu'on va voir, mais qu'on ne va peut-être pas voir. Là, on voit des choses, donc il fallait bien les représenter à un moment. Je ne pouvais pas mettre des écrans de fumée dans mon dessin partout. Il a fallu que je m'attaque à la représentation. Mais d'une façon toujours jamais trop frontale, plus par le décor qui environne l'être que par l'être lui-même. Essayer de chercher des biais qu'on peut avoir en cinéma en faisant passer la créature à toute vitesse, mais en bande dessinée, c'est du dessin arrêté, c'est plus difficile de jouer sur ces effets-là. Donc il a fallu trouver des équivalences pour montrer sans montrer. Voilà.
Et oui. De ce côté-là, moi j'avais le beau rôle parce que dans le script, c'est facile de dire on aperçoit une créature que perdu dans l'ombre, etc. Oui, on la voit à peine, etc.
Faire du Lovecraft un petit peu.
Voilà, mais je me demandais vraiment comment Philippe allait s'en sortir dans ce genre de
Et là, ça a été compliqué, ça, ou le premier choix, le premier design a été le bon.
Non, pas le premier design, mais plus j'ai cherché, plus je suis tombé sur des choses assez simples. Je pense, enfin, je sais pas. À un moment, je me suis dit, oui, c'est ça. Enfin, voilà, j'ai pas essayé de concevoir les choses dans leur ensemble sur ces designs-là. En fait, j'ai pris des choses qui me plaisaient dans divers environnements de forme, et je les ai juxtaposées parce que l'idée de vie extraterrestre, de leur technologie, on n'a pas d'explication claire, comme souvent dans ces récits-là, de comment ça fonctionne. Donc il faut que par simplement le visuel, ça soit crédible, ça renvoie à des choses qui nous paraissent crédibles, mais sans être trop démonstratif sur les machines, sur les formes qu'ils emploient. Donc c'est un jeu de design de forme, en fait, assez abstrait. Et page à page, j'ai avancé comme ça, et en essayant de trouver des cohérences de forme pour créer l'univers de cette créature et que ce soit cohérent. Mais c'est pas du tout le même travail de design quand il s'agit des technologies humaines. Là, je me basais sur ce qui se fait à la NASA, sur ce qui est l'existant, en extrapolant un peu les designs. Mais il y a tellement de choses qui se font maintenant dans le réel humain que voilà, j'ai pris les sources réelles, les énergies
mises en scène, des choses comme ça, on sent qu'il y a une cohérence, il y a vraiment une recherche de cohérence totale. Quoi, en fait,
les énergies...
ce qu'ils découvrent sur la Lune, des choses comme ça.
On a vraiment cherché tout le temps à être le plus réaliste possible, malgré que, bien sûr, il n'y a pas de créatures qui vivent sur la Lune. Ouais. Il n'y a pas de base secrète sur la Lune, mais on a essayé toujours que ce soit le plus
plausible. Oui, c'est là que ça délire pas. Enfin, je trouve que ça reste au seuil du réalisme. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on est dans un récit de science-fiction complet. On sait qu'on n'est pas, on n'est pas ici, on est ailleurs.
C'était notre volonté.
Mais ça délire pas. On part pas sur quelque chose qui pourrait être incohérent.
Oui, c'est comme je disais au début, c'est essayer de jouer le contraste entre le réel et la créature venue d'ailleurs. Il faut un contexte crédible pour que le contraste marche.
Une part à l'imagination et du lecteur aussi. Ouais, Et vous avez tous les deux, j'imagine, une culture SF assez importante, ou en tous les cas assise, qui a digéré un petit peu tout ce qui s'est produit jusqu'à présent. Et est-ce qu'il y aurait une œuvre, par exemple, qui vous donnerait envie de... d'une adaptation, par exemple, en bande dessinée. Parce qu'il y en a qui n'ont pas encore été adaptées. Et je me dis, avec ce graphisme, avec cette cohérence, il y a quand même des petites choses qui pourraient être intéressantes.
Oui et non. Le problème, c'est que moi, j'aime bien mettre mes propres idées, écrire mes propres choses. Après, je préférais trouver, par exemple, un mauvais livre d'un grand écrivain, quelque chose où je peux essayer de... pas d'améliorer,
il doit y en avoir.
Prétentieux, mais d'essayer de faire quelque chose de différent. Mais sinon, reprendre, adapter un grand écrivain, c'est vain. Ça sert à rien.
Oui, je sais pas. Ou Dune en 3 tomes, on se dit.
Oui, ouais, mais à la limite, ça peut être un projet d'un dessinateur de faire une adaptation en tant que scénariste. Je pense que c'est moins
super excitant de reprendre. Le travail d'un autre, si on ne peut pas le transformer. Ce que je fais, par exemple, avec le Métabaron, c'est que je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire. J'ai pas de...
La Bible de Jodorowsky n'est pas en fond en disant...
La Bible, oui, mais pas ces histoires. Si, par exemple, quand tu cites Dune, moi, je veux bien raconter une histoire avec Dune, dans cet univers, mais je ne veux pas raconter l'histoire de Dune qui est déjà écrite.
Il faudrait voir si les droits sont...
Oui, ça, c'est un autre problème.
Oui, sur le Métabaron, donc c'est là tu te coules du coup dans. Enfin, ça n'a pas été une nécessité d'adaptation de ta part.
Avec le Métabaron, on m'a dit fais ce que tu veux. Prends le travail de Jodorowsky, ne le prends pas, etc. Fais-nous une proposition, montre-nous ce que tu peux en faire. Et en fait, la première chose que j'ai fait, c'est tout relire. Et je me suis dit je vais pas le faire parce que le travail de Jodo est beaucoup trop personnel. Et puis en fait, c'est ça qui m'a inspiré en me disant, si lui est personnel, faisons la même chose et soyons personnels, tout en gardant son personnage, son univers. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'univers du Métabaron.
Et le fait de travailler avec Philippe, ça te donne pas envie de le capter dans cet univers-là aussi ?
Non, parce que je pense que j'aime bien séparer les choses. Est-ce que lui, son travail, c'est pas du tout adapté à quelque chose qui est quasi de la fantasy côté Jodorowsky. Ici, on est beaucoup plus art science entre guillemets.
Il y a une part mystique, les visions.
Oui, mais c'est parce que tu n'as pas encore lu le troisième tome. Ce sera expliqué.
Mais peut-être que
la drogue qui a provoqué ça.
Non, pas du tout. D'accord. La drogue l'a aidé, mais. Il y a l'explication, elle est aussi rationnelle que le reste.
D'accord.
Oui, je ne sais pas s'il m'avait proposé qu'est-ce que j'aurais envisagé comme réponse, si on m'avait proposé de faire un Métabaron. Franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas un graphisme pour l'instant dans ce que j'ai fait en bande dessinée très baroque. Donc, je ne sais pas. Propose-moi pour voir.
Vous évoquiez tout à l'heure un projet suivant.
Oui, on a envie de travailler ensemble. Donc là, on essaye de défricher un peu les zones qu'on aimerait travailler ensemble. On est vraiment comme à l'époque où on parlait de la Lune. Voilà, on en est à choisir des points de départ. Là.
On est au tout début.
Voilà, Nantes est le début d'une nouvelle histoire.
Oui, il y en aura deux.
D'accord.
Oui.
C'est déjà ça.
C'est tout ce qu'on sait, en fait.
On attendra.
On n'a plus qu'à les remplir.
On va attendre, alors. Et alors, du coup, votre binôme, je dirais, franco-américain, alors pourquoi Exo en France, du coup ? Est-ce qu'il aurait pu être publié aux États-Unis directement ?
Oh, il sera publié aux États-Unis début de l'année, je pense.
D'accord. Donc ça va être adapté, ça va être recadré. Comment ça va être publié, sous quelle forme, en fait ?
Sous forme d'intégrale, un format un peu plus petit, et en anglais.
C'est humanoïde.
D'accord. Mais en couleur quand même, quoi. Enfin, pas.
Oui, absolument.
D'accord. Oui, c'est des très beaux formats. J'aime bien, moi, les formats compacts, épais, un peu plus ramassés. J'adore ça. Bon, on l'aura aussi en intégrale chez les humanoïdes associés dans quelques temps, mais c'est l'intégrale, quoi.
Et donc la différence, par exemple, de vie entre, un acteur de la bande dessinée en France et un acteur de la bande dessinée aux États-Unis, par exemple, puisque tu peux nous en parler, peut-être, l'ayant vécu un peu de l'intérieur, entre tes matchs de catch et tes courses de dragster.
Mais écoute, j'ai commencé à faire de la BD quand j'étais m'installé aux États-Unis, donc j'ai pas vraiment de référence sur le fonctionnement en France ou en Belgique, vu que je suis belge à la base. Mais moi je me sens très bien où je suis. On a Trump récemment, donc ça m'ennuie un peu plus. mais à part ça, je suis très bien là-bas.
Et tu suis un petit peu ce qui se passe ici concernant, entre guillemets, des combats des syndicats, enfin des BDistes, des choses comme ça, qui peuvent être un petit peu mécontents de ce qui se passe en France par rapport à...
Philippe m'a expliqué ce qui se passait, oui. Mais le système américain fait que, de toute façon, on n'est pas obligé d'avoir une retraite, pas obligé d'avoir une retraite complémentaire, donc... On n'est en tout cas pas ni victime, ni on n'en tire pas davantage non plus. C'est beaucoup plus libertarien comme type de société.
Oui, du coup, ça pourrait donner un éclairage par rapport à, justement, aux états généraux de la BD ici. Même si on sort de ce système-là, c'est viable quand même. Ça peut être viable.
Oui, sans doute, mais moi, j'ai deux métiers. Je fais aussi du graphic design, du dragster. Et j'aime bien faire deux choses différentes, parce que je crois pas que je pourrais arriver à écrire non-stop, et j'aime bien passer d'un truc à l'autre. Mais du coup, j'ai deux revenus aussi. Mais bon, je suis plus âgé, j'ai deux enfants, il faut que...
Oui, c'est le lot de beaucoup,
ouais,
enfin,
voilà.
pas les deux enfants. Hein,
enfin, moi-même, je fais du storyboard aussi, en complément de la bande dessinée. Je suis aussi sur deux activités.
D'accord. Pour le cinéma, pour...
Pour l'instant, surtout pour la publicité. Et bientôt, là, je vais essayer le cinéma aussi. Et bon, c'est des activités cousines avec la bande dessinée. Il s'agit... de raconter en dessin et case à case les actions.
Tout à l'heure, j'évoquais l'aspect cinématographique de Exo. Ce serait joli de voir ça sur grand écran.
Oui, je pense que les droits sont tout à fait
abordables.
Sont achetables. Hein.
Les humanoïdes associés ont une politique d'essayer de faire des films avec leur bande dessinée. Donc, aussitôt que celle-là sera sortie aux États-Unis, oui, ils vont pitcher.
Essayer de.
Au studio, ça c'est clair.
Parce que là, il y a le Universal War de Bajram aussi qui est dans les tuyaux. Ouais. Et du coup, effectivement, ça peut être, je dirais, un appel d'air en fait pour la production entre guillemets française. Pour ce
oui,
type
ils ont attendu de voir comment avait marché Valérian. Et ouais. Là, ils disent
là,
ah, non.
C'est bon.
Ah non, finalement.
Pas bonne pioche.
Finalement, on ne fait pas Exo. Non.
Oui, justement, là, c'est pour ce qui était de l'aspect baroque, là, c'est différent. Ouais.
Clairement.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Enfin, si vous voulez, n'hésitez pas. En tous les cas, je vous invite à, de toute façon, découvrir les albums. Alors, il y a une question. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se promène avec un micro. On m'a dit que oui, mais... Bon, bah, je crois que si on peut faire appel à vos cordes vocales...
Désolé,
ça vous ennuie, je vous prête celui-là de... Allô.
En fait, On avait un projet qui était bien avancé, puis il y a eu la crise en 2008 et il est passé à la trappe avec plein d'autres projets malheureusement. Et il n'y a rien eu pour le faire revivre ces dernières années. Mais il est toujours là, il y a un script attaché, il y a des choses. J'espère que ça reprendra un jour, mais pour le moment c'est...
Un film live, c'était ?
Ouais, ouais. Pour le moment il n'y a rien dessus.
Bon, je vois pas d'autres mains. Et donc, dans vos projets, que ce soit à deux donc, ou individuels, vous pouvez nous en parler un petit peu plus ?
Moi, je travaille sur beaucoup de projets où on me force à ne rien dire tant qu'ils ne sont pas prêts de la sortie. Donc, je ne peux pas vraiment... C'est écrit dans mes contrats que je ne peux pas en parler. J'ai fait une histoire qui se passe en Grèce antique.
D'accord.
Donc très loin de la science-fiction, mais le reste c'est tout de la science-fiction.
Et des publications en France ?
Oui.
Et pour ma part, j'ai envie de continuer dans la science-fiction. En fait, c'était vraiment l'année dernière ici, où en assistant aux conférences, et ça m'a vraiment passionné. Je me suis dit, mais vraiment... alors que j'étais ouvert vraiment à plein de genres différents, je me suis dit, il faut que je continue dans la science-fiction. Vraiment, j'ai eu vraiment envie à Nantes de continuer. Donc, je sais que ma prochaine histoire en bande dessinée, ça sera de la SF, ça c'est sûr.
Ah, c'est un Mais aussi, un truc qu'on a fait avec Exo et que je veux qu'on continue à faire ensemble, c'est que tu verras quand tu termines l'histoire, mais il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de mauvais dans Exo, et c'est vraiment un truc que je voulais arriver à faire. C'est une histoire prenante, passionnante, sans qu'il y ait quelqu'un qui veut dominer le monde ou tuer d'autres personnes. Donc il y a des gens qui n'agissent pas forcément bien, mais qui le font pour de... Ils sont quand même bien intentionnés, si on veut. Ils suivent des ordres ou ils pensent que c'est ça qu'ils doivent faire, mais il n'y a pas de mauvais dans Exo.
Ça, c'est le côté belge de ta vie entre la Belgique et les États-Unis, c'est ça ?
Moi, j'ai pareil réfléchi à ça. Laisse-moi y réfléchir un peu. Oui,
c'est vrai que l'aspect belliqueux en science-fiction, il est assez fatigant, finalement. On s'aperçoit que c'est quand même... ça peut faire partie d'une partie émergée de l'iceberg de la science-fiction en général, mais finalement, c'est devenu la partie la plus visible. Quand on parle de science-fiction aujourd'hui, dans le grand public... Pas forcément le public des utopiales, mais en tous les cas, dans le grand public, c'est effectivement les vaisseaux, les gros guns et puis les rayons laser de tous les côtés.
Bah, je fais ça aussi avec le
tabac. Bah oui, forcément.
Donc, je ne vais pas dire que ça m'ennuie. Non, au contraire, j'aime bien. Mais je pense qu'il y a la place pour raconter des histoires pour adultes, en fait. Mm-hmm. Sans...
Oui, plus humaniste.
Sans toujours avoir une espèce d'action ultra-violente, comme ça. Je pense qu'il y a moyen de faire ça aussi. C'est un des buts qu'on avait en commençant Exo, et certainement quelque chose que je veux continuer à poursuivre.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la bande dessinée, en fait, au début, à tous les deux, dans vos parcours ? Parce que quand on est dessinateur de formation, au départ, on n'est pas forcément dessinateur de bande dessinée.
Moi, je voulais faire de la BD. Je crois que j'ai pensé à ça vers 13 ans. Et ça s'est imposé comme une évidence. Je pense que je voulais raconter des histoires. Et comme je dessinais beaucoup à l'époque, je me suis dit que c'était comme ça que je devais le faire. Et c'est de là que c'est venu. Après, la vie m'a fait prendre d'autres chemins, mais j'y suis revenu.
Il faudrait envisager une fois une expo avec tes premiers travaux, alors ?
Non. Voilà. Surtout pas.
Moi, c'est l'amour du dessin, oui, en tant que lecteur. Après, c'est oui, ça a été... je m'y suis mis tard, hein, parce que là, j'ai fait ma première série il y a 10 ans, donc j'avais déjà une dizaine d'années de travail en storyboard, tout en voulant faire de la bande dessinée. Il a fallu le temps de trouver des scénarios. J'ai pas réussi à... Je ne suis pas scénariste, je n'ai pas réussi à en faire. Donc vraiment, c'était le temps qu'il m'a fallu, une dizaine d'années, pour trouver un scénariste. Je ne savais pas où on les trouvait. Je ne savais pas du tout par quel bout prendre le problème. Je n'allais pas voir les éditeurs, donc J'en ai même croisé dans des cafés, ils me proposaient des scénarios, ça débouchait jamais sur rien. Enfin voilà, ça, et bon, il a fallu que je sois sur Internet, que je c'est là que j'ai trouvé mon premier scénariste pour ma première série en fait. C'est Internet qui m'a désenclavé un peu de ma petite
bulle. Et quand tu as contacté, donc tu disais tout à l'heure que tu avais contacté Jerry. C'est bien ça.
Oui, sur Internet, à Los Angeles, pas de problème.
Et donc, tu lui as envoyé tes travaux pour un petit peu voir comment ça pouvait...
Au début, non, il faut être stratégique. Ouais. Je postais des petits commentaires sur son blog, petit à petit, en espérant qu'il voit qui commente ses commentaires, qu'il aille voir mon travail. Il ne faut donc pas
ça,
être
c'est
trop frontal.
Une leçon pour les
séduction, la séduction par Internet, il faut y aller sur plusieurs mois. Non, j'avais aimé son travail, donc j'ai essayé de l'approcher délicatement. Après, j'ai vu qu'il postait des trucs sur la Lune. Je me dis, c'est pas possible. Lui aussi, il aime la Lune. Alors là, l'histoire d'amour a commencé.
Et du coup, trois albums, c'est une histoire d'amour du coup qui a commencé quand ?
Il y a un bout de temps.
Il y a au moins 5 ans qu'on a.
D'accord.
Au moins 5 ans, ouais.
Et vous êtes rentré entre guillemets dans le dur, alors pas dans l'histoire d'amour, mais à quelle période en fait il a fallu échanger avant d'avoir une histoire complète
Il a fallu un an de réécriture à peu près.
Oui, mais pendant ce temps-là, Philippe avançait sur les.
Je pouvais faire des recherches. Pendant un an, j'ai pu comme ça faire des recherches de décors avec mes autres activités. J'ai eu le temps de développer l'univers parce que il y a vraiment. Toutes sortes de décors, que ce soit sur la Lune, sur Terre, sous l'eau, dans différentes sortes de paysages sur Terre. C'était toute cette variété de choses aussi qui était excitante à dessiner. Et là, j'ai eu le temps de faire des recherches de toutes sortes de design. Ça, c'était une année vraiment bien parce qu'après, quand on attaque les pages, on a des munitions un peu. On a déjà un travail en dessous qui va... Il y a des choses que j'avais repérées il y a 5 ans, que j'ai utilisées l'année dernière quand j'ai fait le tome 3. Des recherches de formes sur certaines vies biologiques qui me plaisaient, je les avais mis de côté dans un dossier et j'ai pu les ressortir à un moment où je cherchais des choses en feuillette ad hoc, virtuelle, numérique. Et voilà, c'était ce travail-là qui a nourri... trois albums.
Quand on crée une créature extraterrestre, il suffit de prendre la réalité et de la pousser un petit peu plus loin. Ou est-ce qu'à un moment donné, on se rend compte en se disant
ouais,
mais
mince,
ce que j'ai imaginé existe déjà prendre. Finalement
c'était le plus difficile pour moi. Parce que j'ai tendance à intellectualiser les choses, à essayer de les penser. Et là, justement, il faut essayer de créer de l'inconnu, créer des choses qu'on ne comprend pas. J'ai plutôt un dessin analytique qui dessine ce qu'il comprend. Donc, il y a des dessinateurs plus instinctifs. Moi, je suis plus analytique. Donc là, il s'agissait de dessiner des technologies dont on ne sait pas comment elles marchent véritablement. Donc, j'y suis allé, comme je disais tout à l'heure, par l'extérieur, par la forme, de façon presque abstraite. Et c'est surtout dans le tome 3 hein, qu'on voit ces éléments-là.
Oui, on va pas montrer le tome 3.
Avec des choix de matériaux, par exemple, ça a pu m'aiguiller sur les designs. J'avais l'idée du corail comme matériau. Et le corail a des formes très diverses et ça m'a permis de trouver des pistes de design pour des décors, des choses comme ça. Voilà. Des choses assez simples au démarrage qui donnent des idées de forme.
Et en tant que dessinateur, vous êtes tous les deux assez polyvalents, je trouve. Et il y a des éléments que vous préférez par-dessus tout explorer, enfin graphiquement, que ce soit, je sais pas, la ville, le personnage, le véhicule.
Graphiquement, je sais pas, ça je laisse Philippe répondre. Moi, j'aime bien les personnages. Et de raconter leur vie. Chaque personnage, du moins les personnages importants, j'ai écrit qui ils étaient, à qui ils étaient mariés, le nombre d'enfants, même si on ne voit pas tout ça, ou on voit très peu
toute la méta-histoire.
Dans l'histoire, je connais leur histoire. J'ai besoin de ça, de les faire exister pour que leur réaction appartienne à la même entité, pour qu'il n'y ait pas des choses, qu'ils ne disent pas des choses, qu'ils emploient un vocabulaire qui ne colle pas avec le personnage. C'est un truc que je trouve vraiment, vraiment passionnant à construire.
Et du coup, tu t'inspires de tes amis, tu t'inspires de, je sais pas, ça, il peut y avoir comme ça des personnages qui,
oui, je l'ai,
que tu peux retrouver.
Je l'ai déjà fait certainement, mais c'est plus abstrait dans le sens où tout le monde connaît des tas de gens, on voit des tas de gens, on en voit à la télé, on lit des livres, etc. Donc on sait plus ou moins ce que c'est qu'un être humain. Et c'est, je me base sur ça ou des expériences. Il y a évidemment beaucoup de moi dans chaque personnage.
Et donc, Philippe, dans...
Sur les choses que j'aime particulièrement dessiner, comme je disais, je suis assez laborieux dans mon travail, dans le sens où j'ai besoin de travailler pour aboutir mon dessin. Et du moment que je suis motivé par l'histoire, et je vais être motivé par le fait de représenter ce qu'il y a à représenter pour la raconter. Je suis prêt. C'est sûr qu'il y a un plaisir à dessiner une forêt qui va être plus grand que dessiner une avenue pour moi. Il y a une liberté dans le trait, avec les dessins de paysages, de nature... que j'ai du mal à retrouver quand je dessine des perspectives de ville ou de voiture, parce que là, il y a des contraintes de représentation qui sont beaucoup plus fortes. Et c'est sûr que ça implique un niveau de travail plus important. Donc, les séquences sur la Lune ont été vraiment des récréations après des séquences qui se passent à Los Angeles, sur les autoroutes, c'est certain. Donc, ce qui était plaisant, c'était l'alternance de ces scènes, justement, de dessiner des cratères lunaires. On s'amuse plus avec les traits, les hachures, de façon beaucoup plus libre que ce que j'évoquais.
Que les architectures.
Et sur, voilà, mais sur le plaisir, c'était les contrastes dans cette histoire.
Quand on feuillette les albums ou quand on passe les images comme ça, il y a un énorme travail sur la couleur, je trouve, qui reste, je dirais... C'est pas un jus coloré, je dirais, comme certaines planches sur certaines bandes dessinées. Là, il y a un vrai souci du détail, je dirais, aussi réaliste que dans la couleur que dans la forme, en fait. Mais malgré tout, voilà, une homogénéité complète.
Oui, essayer de trouver des harmonies tout en ayant quelques couleurs un peu soutenues.
Mais il y a beaucoup de dessinateurs qui ne sont pas coloristes.
C'est aussi un autre travail, en fait. C'est des couches qui se superposent de travail différent, de passer du trait au dessin en couleur. Pour moi, c'est vraiment il y a deux parties du cerveau qui travaillent, qui sont assez distinctes en... Et j'ai un grand plaisir à faire la couleur maintenant, parce que ça me demande aussi beaucoup de... J'ai fait quelques progrès, je pense, depuis ma première série. J'ai essayé dans cette série d'être moins monochromatique. J'avais tendance, pour harmoniser, à faire des sortes de camailleux qui faisaient qu'on avait une harmonie de toute façon plus facile à obtenir. Là, j'ai essayé d'avoir des contrastes chromatiques plus saturés déjà. J'avais envie de ça pour Exo, et l'idée c'était, oui, c'est que quand je passe à la couleur, c'est oui, d'autres parties qui travaillent en soi, c'est d'autres, c'est vraiment une découverte aussi, le plaisir dans la couleur.
De la couleur.
En général, je la fais à la fin, donc pendant un mois et demi, je fais que de la couleur. Toute la journée, et c'est super bien.
J'allais te demander, à la fin de quoi ? Tu fais tout l'album en premier en noir et blanc avant,
voilà,
d'attaquer la couleur.
Ouais, donc je pense que contraste, que représentation, dessin, tout ça. Et après, je pense que couleur. Et là, c'est une vraie récréation, parce que plus on en fait, plus on progresse. Vraiment, dans les dernières pages, les choses viennent très naturellement. Quand on fait beaucoup de couleurs, ça vient beaucoup plus facilement.
Et dans votre couple longue distance, du coup, t'envoyais tu faisais des envois case ou
rendez-vous
page
pour
par
moi
page,
à 5h du soir, et lui, ça doit être 7h du matin. C'est 8h du matin, voilà. C'est notre rendez-vous.
Et c'était un suivi... Pas quotidien, j'imagine. Mais
non, mais moi, j'aime bien avoir un petit compliment à chaque page. Alors, je lui envoie pour avoir mon petit compliment du soir.
D'accord. J'ai une liste d'adjectifs.
Ah oui, de compliments.
Ouais. Ouais.
Les mails, ils sont déjà prêts la veille, c'est ça?
Oui, oui, alors ça va de très bien à sublime. Qui... Mais bon, sa femme lui dit qu'il le dit trop sublime. Alors, c'est, finalement, on ne sait pas si c'est un compliment ou un automatisme.
Ou un technologue.
À un moment, on se dit peut-être que ça veut dire juste que c'est pas mal.
C'est sympa.
Non, voilà, il est tout à fait motivant.
Et alors, Jerry, quand tu attends les planches, quelle est la bonne surprise? La première planche, par exemple, de voir ta vision adaptée en dessin et le taux de satisfaction, alors entre très bien et sublime, on prend de la confiance en se disant, ouais, le projet va finalement avoir...
En fait, c'est très étrange parce que chaque fois que je reçois une page, enfin pas quand on travaille ensemble depuis un certain temps, parce que je sais plus ou moins à quoi m'attendre, mais au début d'un projet, c'est toujours bizarre parce que c'est jamais ce qu'on avait en tête. Et c'est là qu'on se rend compte à chaque fois qu'écrire, c'est abstrait. Et on a beau faire des descriptions, de dire là, il monte sur le véhicule, il avance, etc. On se crée une image en soi qu'en fait, on n'écrit pas forcément dans le scénario. Et du coup, ce qu'on reçoit au début est toujours super bizarre. Parce qu'en fait, entre moi et le lecteur, il y a Philippe qui adapte mes idées abstraites. La seule chose qui passe directement de moi au lecteur, c'est le dialogue. Et donc, c'est pas décevant, c'est toujours excitant, c'est intéressant, mais c'est un sentiment étrange, que c'est pas vraiment ce à quoi...
Oui, t'es obligé de lâcher prise sur
et
ce
je
que
me,
tu...
Je me suis déjà dit, tiens, c'est pas vraiment ça que j'avais en tête, et je relis le scénario, et en fait, ce que Philippe ou quelqu'un d'autre a dessiné, c'est exactement ce qu'il y avait dans le scénario, mais je me crée moi-même des images mentales de... Comme quand on lit un bouquin.
Et puis, il n'aimait pas dans le scénario. C'est ça qui aussi serait peut-être difficile à accepter d'un scénariste pour moi, c'est qu'il y ait des descriptions trop, trop visuelles. J'ai toujours travaillé avec des gens qui ne mettent pas le visuel dans leur scénario. Vraiment, on se sent libre de.
Mais Jerry ne te fait même pas des têtes à Toto pour t'indiquer.
Non, je ne sais pas. Je pense que j'aimerais pas trop. Je ne savais même pas si tu avais des visuels de ce que tu écris, parce que des fois je pense qu'on écrit sans, tu visionnes toujours.
Oui, bien sûr.
Moi je serais très déçu si je voyais des choses notre vision, ça serait horrible.
il y a des moments où j'ai travaillé avec des images pour toutes ces scènes là sur la Lune. J'avais des images de la Lune ou des images de science-fiction que j'aime bien, avec des ruines, des trucs comme ça. Mais je les décris pas forcément. Je dis, il se retourne, et c'est pas plus que ça. Oui, donc il faut que le...
À un moment, là,
mette sa vision.
Dans une des cases, tu me dis, et il s'arrête, il fait du stop. C'est vachement compliqué à faire cette case. Il faut qu'on comprenne qu'il ouais, est descendu, il fait du stop pour qu'il le prenne au passage. Là, je me disais, mais on va... Je sais pas si on le comprend, d'ailleurs. Qui fait du stop.
Complètement oublié.
C'est un gag.
Vous allez être avec nous pendant toute la durée du festival?
Oui. Non.
Non, juste deux jours.
Vous partez dans un quart d'heure, c'est ça?
Non, je pars demain.
Voilà, deux jours. Deux jours.
En tous les cas, je vous remercie de ce petit moment passé entre nous et en votre compagnie.
Merci à toi.
Je vous invite absolument à découvrir ce petit bijou. Le tome 3 sort au mois de janvier, donc vous avez à peine le temps de lire le second, qu'il faudra très peu de temps à attendre pour avoir le tome 3. Et c'est vraiment un petit bijou en trois morceaux. Et ces messieurs, ce joli couple sympathique, est en dédicace immédiatement à 14h. Donc n'hésitez pas à aller les embêter. Vous n'en serez, je pense, que heureux. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et puis on va laisser la place au suivant pour qu'ils aient le temps de s'installer. Merci.